Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Saint Augustin, quand il rédige ses confessions, pense l'unité, l'articulation des parties. Dans le livre 10, il a parlé de la mémoire, et dans le livre 11, il parlera du temps. Les deux sont intimement liés. S'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de temporalité. C'est parce que l'homme se rappelle avoir été ce qu'il est et anticipe qu'il sera, qu'il est conscience du temps. Pas de temps, pas de temporalité sans la mémoire. Augustin consacre des pages difficiles et tout à fait profondes à la question du temps. Ce sont des pages éblouissantes qui donneront à penser à des générations de philosophes jusqu'aujourd'hui, comme on sait. Il commence par noter une chose étonnante, c'est le fait qu'il n'y a pas de temps là où il n'y a rien. Il répond à une question naïve que nous pourrions nous poser, que faisait Dieu avant la création du monde? La réponse est que la question est sans signification, parce que là où il n'y a pas de monde, il n'y a pas de temps. Et donc il faut poser la question autrement, la question du temps. Le temps n'est pas coéternel à Dieu, et c'est à partir du moment où il y a quelque chose que ce quelque chose est du temps. Voilà donc une des grandes découvertes qui reviendra dans la physique moderne, notamment avec la théorie de la relativité. Le temps n'est donc pas une sorte de milieu à l'intérieur duquel il y aurait quelque chose, mais le temps est une manière d'être. Le monde n'est pas dans le temps comme un poisson est dans l'eau, le monde est du temps. Et pareillement, l'âme humaine n'est pas dans le temps comme dans un élément, mais la conscience est du temps. C'est-à-dire qu'une conscience humaine, c'est une certaine façon de se temporaliser. Voilà des choses difficiles, des choses profondes qu'Augustin découvre. Nous noterons au passage qu'il a parfaitement conscience du fait que ce qu'il dit est nouveau. Il le dit à un moment donné, sans orgueil. Ces choses sont nouvelles, dit-il. Voilà. Il a bien conscience du fait qu'il est le premier à explorer cela et à dire ce qu'il dit à propos du temps. Je cite, « Leur découverte est une chose neuve. Ces notions restent très cachées et leur découverte est une chose neuve. » C'est Augustin qui est l'auteur de cette découverte. Alors, accompagnons-le dans cette méditation sur le temps. Tout le monde connaît peut-être la formule bien connue. Le temps, si nul ne me le demande, je sais ce que c'est. Si quelqu'un pose la question et que je veuille lui expliquer, je ne sais plus. Voilà bien une difficulté. Le temps est une réalité, entre guillemets, réalité, familière, et tellement familière que nous croyons savoir ce qu'est le temps, nous croyons connaître la nature du temps. Cette expérience du temps, c'est l'expérience de l'impermanence, l'expérience du changement. Si nous rappelons ce que dit Aristote en Physique 4, le temps est avant tout extatique, dit Aristote, c'est-à-dire destructeur. Toute chose vient à l'être, à l'existence, pour périr. Donc l'expérience première du temps, enfin première au sens de ce que nous voyons du temps sous un certain jour, c'est l'expérience de la venue à l'existence, mais d'une venue à l'existence qui est vouée à la disparition. Alors Augustin, ce qu'il dit du temps, il l'a découvert notamment en lisant les épîtres de saint Paul. Et il faut dire aussi que donc c'est un point capital, c'est bien ici, en tant que penseur chrétien, qu'il médite la nature du temps. Nous rappelons que saint Paul parle des temps qui sont accomplis. Dans l'Épître aux Galates, par exemple, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Donc nous avons chez saint Paul une méditation, sur une découverte du temps comme maturité, du temps comme aporie et ou comme plénitude. Alors, revenons à saint Augustin. Première découverte du temps, eh bien, c'est l'expérience du passage, l'expérience de l'avoir été. Si rien ne passait pour disparaître, il n'y aurait pas de temps passé. Si rien n'advenait, il n'y aurait pas de temps futur. Et si rien n'était, il n'y aurait pas de temps présent. Nous retrouvons là les trois temps qui nous sont familiers. Le passé, ce qui a été. Le futur, ce qui sera. Et le présent, l'affaire de ce qui est. Saint Augustin approfondit cette recherche en montrant que le verbe être ne peut pas être employé pleinement à propos du passé et du futur. En effet, ce qu'il faut dire du passé, c'est qu'il a été, par conséquent, il n'est plus. Et le ne plus être, les philosophes le savent, le disent, c'est un néant. Le futur n'est pas encore, et par conséquent, le futur, à sa manière encore, est un néant. Le passé est un néant déterminé, parce que ce qui a été, cela est définitif, cela est déterminé, et parfois nous nous surprenons nous-mêmes à regretter de ne pas pouvoir le changer, mais justement, il est impossible à changer, ce qui a été, a été. Ce serait donc un néant déterminé. L'avenir, en revanche, est un néant indéterminé. Il est encore non seulement inconnu, mais encore indéterminé. Il sera, mais nous ne savons pas ce qui sera. Quant au présent, nous pourrions nous rassurer en nous disant, mais là, au moins, nous avons affaire à quelque chose de stable, de plaignier. Or, Augustin souligne le fait que le présent est comme quelque chose qui s'efface, quelque chose qui, en advenant, disparaît, quelque chose qui, en apparaissant, disparaît. Je lis, « Quant au présent, s'il était toujours présent et ne s'en allait pas dans le passé, il ne serait plus le temps, mais l'éternité. » Qu'est-ce donc que le temps? Conclusion de ce paragraphe. Le temps est, en vérité, donc, ce qui tend à ne pas être. Et donc, le présent ne sera pas davantage un refuge pour nous, le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore, et le présent est de l'ordre ici de l'éphémère, de ce qui advient et qui tend en advenant à déjà ne plus être, qui en venant est déjà passé. Nous voyons donc ici notre expérience quotidienne, l'expérience du caractère éphémère, insaisissable du présent, et nous voyons aussi le caractère difficile d'une vie temporelle pour l'être humain. Nous savons bien que nous pouvons avoir des soucis de santé, des soucis financiers, des soucis politiques. Et nous voyons bien qu'il n'est pas facile pour un être humain de trouver une joie véritable, quelque chose de stable, de durable dans sa vie. Mais une des grandes découvertes d'Augustin dans ses textes, c'est le fait que c'est le temps qui est la première cause d'un certain malheur de l'être homme. Parce que le pur et simple fait d'être de la temporalité, de se temporaliser, de vivre sur le mode de la temporalité, fait pour l'homme et pour l'homme une difficulté. Nous sommes comme un marcheur qui marcherait sur une crête de montagne entre deux abîmes et nos pas, loin de s'appuyer sur du stable, s'appuient sur quelque chose qui, en advenant, disparaît. L'expérience du temps, c'est donc l'expérience de l'éphémère, l'expérience du néant. Cela donc provoque bien une sorte de douleur immanente à l'existence humaine. Il n'est pas facile d'être homme, non seulement parce qu'il y a tous les soucis que j'ai rappelés, mais premièrement parce que l'homme est du temps. Continuons. Augustin cherche la nature du temps. Il a jeté un premier coup d'œil sur les trois dimensions du temps, le passé, le futur et le présent, dans cet ordre précis. Il cherche maintenant comment nous pouvons mesurer le temps. Alors, il faut faire ici une comparaison avec la mesure de l'espace. Nous mesurons l'espace avec de l'espace. Par exemple, le pouce, le pied, la coudée, ce qui sont des mesures antiques. Et nous ne pouvons pas mesurer l'espace autrement qu'avec une certaine unité de mesure qui est elle-même une certaine longueur, une certaine distance. Maintenant, quand nous voulons mesurer le temps, une des belles découvertes d'Augustin, c'est qu'il nous faut mesurer le temps avec du temps. Il faut donc trouver un étalon de la mesure qui sera lui-même du temps. Il voit bien que quand nous vivons le temps, quand nous l'expérimentons, nous avons le sentiment que tel temps a été long et que tel autre a été bref. Ou plutôt, comme il le dit, nous disons, ce temps présent a été long, parce que quand il était présent, il était long. Nous remarquons au passage qu'Augustin, pour parler du temps, parle de ce que nous disons à propos du temps, ce que faisait déjà Aristote, en notant que la manière dont nous parlons du temps, parce que la manière dont nous parlons du temps nous met sur la voie pour comprendre la nature du temps. La question est donc bien celle de la mesure du temps. Comment mesurer le temps? Prenons l'exemple que prend Augustin. 100 ans, 100 ans. 100 ans ne seront pas présents simultanément. Un seul jour n'est pas lui non plus tout entier présent. Les heures adviennent les unes après les autres. Et si nous prenons une heure unique, eh bien une heure unique, elle-même, dure, mais les heures ou les minutes adviennent et s'effacent, et l'heure n'est pas tout entière présente. Comment alors mesurer le temps ? Nous sommes tentés d'arriver à quelque chose qui s'appelle l'instant, et de considérer à ce moment-là que la plus petite unité de temps possible, c'est l'instant. Mais Augustin le montre ici subtilement, l'instant ne peut pas être une unité de temps. Tout comme le point ne peut pas être une unité de l'espace. L'instant, c'est ce qui n'a pas de durée, et si nous ajoutons des instants sans durée, nous pouvons en ajouter des milliards d'instants sans durée, nous ne nous donnerons aucune durée.
Les penseurs chrétiens, Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Additionner des instants ne donnera pas la durée. Augustin comprend que pour mesurer le temps, il faut une mesure qui soit elle-même temporelle. Et la mesure qu'il pose ici, c'est la syllabe. Alors, je rappelle qu'à l'époque d'Augustin, il n'existait pas nos distinctions, minutes, secondes, etc. L'unité la plus petite était l'heure, qui était en fait assez floue. Rappelons-nous que les instruments de mesure du temps sont le sablier, etc., pour les instruments de mesure physiques. Mais la grande originalité d'Augustin consiste à nous faire entrer en nous-mêmes pour nous faire comprendre que si nous avons des sabliers ou des clepsydres pour mesurer un certain temps physique, la véritable mesure du temps est intime. C'est l'âme qui, en durant elle-même, mesure au-dedans d'elle-même justement la durée des choses et la durée de l'impression des choses en elle. Alors, sa trouvaille consiste à penser que l'unité de temps la plus petite, c'est ce qu'on pourrait appeler la seconde, c'est-à-dire la syllabe, ou plutôt la voyelle, A, E, I. Voilà, c'est déjà une durée, c'est une durée toute petite, mais c'est déjà bel et bien de la durée. C'est la durée la plus petite possible, et à partir de là, nous pouvons compter. Ce temps a duré deux voyelles ou une syllabe ou deux syllabes, comme nous faisons dans la poésie quand nous déterminons, nous délimitons les syllabes longues et les syllabes brèves, par exemple. Augustin sait tout cela par cœur. Voilà donc un point important, la mesure du temps se fait avec du temps, à partir de l'unité du temps qui est ici la syllabe ou le son le plus bref. Il y a un autre point important qui est découvert par Augustin, qui est la question du sens du temps. Il y revient à plusieurs reprises, et c'est un point vraiment tout à fait nouveau. Quand nous nous représentons le temps, spontanément, nous pensons que le temps, si nous pensons le temps comme une flèche, comme une certaine direction, un sens et une finalité, nous pensons que le temps vient du passé, que de là il advient au présent, et que de là il est tourné, et que la flèche du temps est tournée vers l'avenir. Nous pouvons nous le représenter ainsi, Augustin ne l'interdit pas, mais il nous montre qu'il y a qu'il faut penser en même temps le temps d'une autre façon, qui est la flèche en sens inverse. À savoir que le temps, comme il le dit, passe d'un vol si rapide du futur au passé et par le présent. Donc à ce moment-là, la flèche du temps commence par le futur, de là le temps advient dans le présent, et de là il passe, et cela c'est le passé. Alors sans doute que nous croyons que le temps vient du passé par le présent vers le futur, parce que nous nous retournons vers notre passé, et nous retournons vers lui, nous croyons le voir venir vers nous. La position d'Augustin est tout à fait intelligente et subtile. Elle consiste à montrer que l'origine du temps, la source du temps, c'est l'avenir, la futurition. Ce qui est devant advenir, c'est cela qui est la source du temps. Et à partir de ce qui doit advenir, cela advient et cela se rend présent. Le présent donc est donc un venir à la présence de ce qui était devant arriver. Et ce qui advient, en advenant, disparaît et devient du passé. Donc la surprise, c'est que la flèche du temps, le sens du temps, va du futur au passé par le présent. Cela est vraiment une très très belle découverte. Ensuite, Augustin se penche vers un autre problème qui est le problème des trois temps. Nous connaissons ces trois temps, le passé, le présent et l'avenir, si je reprends la flèche du temps coutumière. Mais Augustin se demande d'abord où sont ces temps. Et sa grande découverte, c'est que ces temps ne sont rien d'autre que des manières d'être de l'âme, et elles sont une certaine façon pour l'âme de se déployer. Regardons cela. Il veut savoir d'abord où sont les choses futures et les choses passées. Et il découvre qu'elles sont dans l'âme, ou bien comme souvenir, ou bien comme anticipation. Et donc nous retrouvons la mémoire. C'est parce que je suis mémoire et mémoire de moi-même que je me rappelle ce qui a été et que je rappelle l'image à moi-même. Et donc là, la mémoire joue un rôle capital dans la conscience intime du temps. Et c'est aussi par la mémoire que je me rappelle une action et que j'anticipe une nouvelle action possible dans un monde qui m'est familier. Par conséquent, le temps est bien quelque chose qui se joue dans l'intériorité. L'autre point important, c'est l'attention au futur. Regardons ici l'exemple magnifique que donne Augustin au livre 11, toujours, chapitre 18, l'exemple de l'aurore. L'exemple de ce que Husserl, dans ses leçons sur la conscience intime du temps, appellera un objet temps. En fait, si je prends un caillou dans la main, ce caillou ne me semble pas être du temps, parce que à mon échelle, je ne le verrai pas se former, se désagréger et disparaître. Et donc, j'oublierai qu'il est du temps, qu'il s'est temporalisé d'une certaine façon. Nous voyons par exemple que tel arbre a telle durée de vie, tel autre arbre une autre durée de vie, telle maladie une certaine durée de vie. Donc, chaque chose, pour être elle-même, se déploie selon une certaine temporalité. Et ce qu'Augustin nous fait voir ici, c'est cela. Il nous fait voir les choses comme du temps. Et il donne un très bel exemple, c'est l'exemple de l'aurore. Je regarde l'aurore, je lis. Je regarde l'aurore. J'annonce à l'avance que le soleil se lèvera. Ce que je regarde est présent, ce que j'annonce est futur. Ce n'est pas le soleil qui est futur, car il existe déjà. Mais c'est son lever, car il n'est pas encore. Pourtant, ce lever lui-même, si je ne l'imaginais en esprit, comme en ce moment où j'en parle, je ne pourrais le prédire. Fin de citation. Je regarde l'aurore, et à ce moment-là, donc, je regarde les signes de quelque chose qui sera. Et ce qui veut dire que nous avons maintenant sous nos yeux les signes de ce qui sera, mais nous sommes myopes ou aveugles et nous ne savons pas discerner et connaître les signes de ce qui sera. Quand c'est l'aurore, évidemment que nous le pouvons parce que nous avons déjà vu l'aurore, mais pour le reste, pour l'histoire par exemple, politique, sociale, il est beaucoup plus délicat d'interpréter les signes de ce qui sera, les semences de l'avenir. Voilà donc un bel exemple, l'exemple d'une chose qui est de part en part du temps. Et cette chose qui est de part en part du temps, je ne peux la connaître que par la mémoire. Et je ne peux la connaître que en moi-même et par moi-même. Arrivons au livre 11, chapitre 20. Augustin corrige notre manière de parler. Nous disons qu'il y a trois temps, passé, présent, futur. Augustin corrige en disant, voilà, il faut parler autrement et dire qu'il y a trois temps, le présent du passé, le présent du présent, le présent du futur. Je lis. Il y a en effet dans l'âme, d'une certaine façon, ces trois modes du temps. Et je ne les vois pas ailleurs que dans l'âme. Le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est la vision. Le présent du futur, c'est l'attente. Donc ça veut dire que les trois modes du temps sont en fait trois manières dont la conscience se rapporte à elle-même en se rapportant à ce qui a été, ce qui sera et ce qui est. Et puisque tout cela est une affaire de mémoire, donc le présent s'assoit de l'esprit, nous comprenons que le présent, que le passé soit présent du passé, dans l'absence même, c'est la mémoire qui me le livre, que le présent du futur, ce soit l'attente, c'est l'attente, comme attente de ce qui adviendra et dont je vois déjà les signes, et le présent vivant, c'est le présent du présent, c'est la vision, c'est la présence de moi-même à la chose ou de la chose à moi-même. Continuons. Augustin a aussi le génie des exemples. Nous avons vu l'exemple admirable de l'aurore. Et Augustin, maintenant, prend d'autres exemples. Il continue sa méditation sur le mouvement et sur la mesure du temps. Sa grande découverte, c'est que le temps est une distension de l'âme, puisqu'il y a trois temps qui sont le présent du passé, le présent de l'avenir et le présent du présent. Ça veut dire que le temps, c'est la manière d'exister de l'âme. C'est une manière pour l'âme de se distendre. Le temps est une distension de l'âme. On pourrait presque traduire par un écartèlement, par une divergence. L'esprit s'éclate, éclate. Il y a un éclatement de l'esprit en lui-même, selon les trois temps. Augustin nous le donne à comprendre par un très bel exemple, qui est le suivant. C'est l'exemple d'un chant. Chant, verbe chanter. Je me prépare à chanter un chant que je connais, dit-il. Voilà. Avant de chanter ce chant, ma mémoire me présente ce chant que je connais tout entier. Je l'ai en totalité devant mes yeux par la mémoire. Maintenant, je commence à chanter ce chant. Qu'advient-il pendant que je chante ce chant que je connais? Eh bien, je dois être attentif simultanément à plusieurs choses. Je dois être attentif à ce chant que je connais. Je dois être attentif au point où j'en suis. Je dois être attentif à ce que j'ai déjà dit. Je dois être attentif à ce qu'il me reste à dire. Et nous voyons bien ici ce qu'Augustin appelle distension, que je pourrais traduire par écartèlement ou par tension, distension. Mon âme est simultanément attentive à ce qui sera, à ce qui a été et à ce qui advient. Et nous voyons là quelque chose de difficile, quelque chose en fait que nous faisons ou que notre esprit fait en nous sans que nous y pensions, mais quelque chose aussi qui suscite la fatigue. Et nous comprenons pourquoi maintenant, après des heures d'écoute, par exemple, d'un cours difficile, nous sommes fatigués, parce qu'il a fallu être distendu pendant plusieurs heures. Voilà, le temps, donc, qu'est-ce que le temps? C'est une manière d'être de l'esprit, c'est cette manière d'être qui s'appelle distension de l'âme, qui se tend simultanément dans plusieurs directions. Alors, Augustin élargit cela à la vie tout entière. La vie tout entière de l'homme est une distension. L'histoire de l'humanité tout entière est une distension. Nous arrivons à la fin du livre 11, chapitre 29, et Augustin met en relation la distension avec ce que saint Paul a découvert dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 12, et que saint Paul a appelé l'épectase, c'est-à-dire le fait d'être tendu en avant. Que comprend Augustin? Il comprend que la personne humaine, comme égo temporel, est dans la dispersion, dans la distension, qui est maintenant une dispersion, dans la différence, dans la multiplicité. Mais il comprend que le moi, la personne humaine, peut s'unifier. Elle peut surmonter les temps, non pas en supprimant la temporalité, mais en unifiant la temporalité. Il comprend donc ici ce qu'on peut appeler un recueillement, une unification des trois temps. Et à ce moment-là, ce dont il s'agit, c'est de mettre en regard la temporalité avec l'éternité. Que signifie la notion d'épectase? Elle veut dire que, en vérité, l'âme humaine est non seulement distendue, comme nous venons de le voir, mais elle est encore tendue, elle est tendue vers quelque chose qui est l'éternité. Et cela signifie que la relation de l'âme temporelle, se temporalisant avec Dieu, est la relation de celui qui vit dans le temps et qui aspire à l'unité avec soi. Et la tension ultime de l'âme humaine, c'est la tension qui l'a fait aspirer à l'unification de soi en Dieu. La véritable destinée de l'homme est donc d'être recueilli et d'être enfin unifié dans l'éternel.